Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
L'économie n'attend pas. Elle bouge, elle évolue, elle vous surprend. Rejoignez votre hôte, Othmane Lamziri, alors qu'il explore et expose toutes les facettes du monde des finances. Bienvenue dans l'économie en mouvement.
Bonjour, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cette émission de l'économie en mouvement. À votre émission spéciale. Et nous sommes dans une émission vraiment spéciale dans le Radiothon de la CFA 88.3 FM. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un format plus ou moins particulier à l'occasion de vraiment de la Radiothon. Et je remercie vraiment la CFA 88.3 pour m'avoir élu comme étant l'émission de radio de l'année 2025. En fait, c'est très beau. Merci à tout le monde. Merci à Alex. C'est très beau. Et j'aimerais le poser juste ici, devant vous. Voilà. Et puisque notre émission s'appelle l'économie en mouvement, j'ai voulu quand même vous proposer ce soir un voyage à travers les grands piliers d'économie. Alors, des sujets plus ou moins simples. J'aimerais parler de la croissance économique, j'aimerais parler de l'inflation, j'aimerais parler du chômage aussi. Et pourquoi pas expliquer aussi des phénomènes de la monnaie. Alors, cette invention humaine fascinante qu'on utilise toujours, soit le dollar canadien ou n'importe quelle monnaie, devise, encore, voilà, de nos échanges et de notre confiance collective. Alors, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, vous vous voyez ici sur YouTube et prenez un café. Moi, j'ai la belle tasse, le beau mug de la CFAC. Et voilà, avec un beau café. On met l'économie en mouvement. Alors, commençons par le commencement qui est la croissance économique. On pense tout de suite à des chiffres, par exemple 2% d'ici, 3% de là. Mais derrière ces pourcentages, il y a un concept bien plus large. C'est quoi en fait? C'est l'idée progrès de développement, entre parenthèses, parce que je vais revenir au concept de développement après, de transformation de la société à travers plusieurs productions, à travers plusieurs choses. Alors, la croissance économique, dans sa définition plus simple, c'est l'augmentation durable de la production de biens et de services, ça veut dire les BS, dans une économie. On la mesure à travers le produit intérieur brut. Il y a deux types de produits intérieurs bruts. Il y a le produit intérieur brut qui est réel et un autre qui est nominal. C'est un peu, le PIB, c'est un peu le thermomètre de la santé économique d'un pays. Mais si on remonte un peu dans le temps, ce concept n'a pas toujours existé. En fait, par exemple, au 18e siècle, pendant la révolution industrielle, les économistes comme Adam Smith ou David Ricardo s'intéressaient surtout à la richesse, wealth, qui est la richesse. Et c'est pour cela que Adam Smith a publié dans son ouvrage dans les années 1800 et quelques, son ouvrage qui est The Wealth of Nations. Alors, ils se sont intéressés surtout à la richesse des nations, à la division de travail, à la spécialisation. Et pour eux, la croissance venait de la liberté d'échanger l'accumulation du capital. Et pendant les années 1950, on a plusieurs économies qui se sont émergées, surtout les classiques, les néoclassiques, notamment celui de Robert Solow. Lui, il décompose la croissance en trois éléments. Et avec le travail, qui est le L, qui est labor, le capital, qui est capital, qui est le K, et puis le progrès technique. En gros, tout ce qui améliore notre manière de produire, qui est le progrès technique, qui peut être la connaissance, l'innovation. Et pour Solow, Robert Solow, dans sa théorie, il a dit qu'il faut avoir une croissance, en fait, une bonne croissance est due plus ou moins de plus de 60% du progrès technique, plus de 60% de la connaissance. Alors vraiment, la connaissance, elle pèse beaucoup dans le produit intérieur brut, dans la croissance économique. Alors, mais voilà, en fait, c'est une chose, la pratique, c'est vraiment autre chose. Alors, la théorie est là, mais dans la pratique, il y en a quoi exactement? Et depuis dans les années 2000, on voit bien que la croissance ne dépend pas seulement des machines ou du nombre de travailleurs. Elles dépendent de facteurs immédiats, matériels, comme par exemple l'éducation, comme par exemple, je peux dire, la confiance, les institutions, la stabilité politique, la stabilité économique. Et prenons l'exemple du Canada ici. Avant la pandémie, la croissance, ça veut dire le produit intérieur brut, tournait autour de 1,7 jusqu'à 2% par an. C'était plus ou moins stable, constant, mais c'est vraiment spectaculaire. Pourquoi? Car si on voit en 2020, tout a été vraiment arrêté. Une chute vraiment phénoménale, historique, le plus fort depuis la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, il y a eu un rebound en 2021. C'est juste une récession, plus ou moins, puis une nouvelle période d'incertitude avec l'inflation et les hausses, etc., etc. Ce qu'on observe ici, je peux dire que la croissance moderne est devenue vraiment quelque chose de fragile. Elle dépend de nombreux leviers, comme la consommation, comme les exportations, la technologie, mais aussi vraiment la confiance des ménages et des entreprises. Et c'est là où je vais m'arrêter un peu sur comment peut-on calculer le produit intérieur brut. La formule, elle est vraiment simple. Il y a en fait trois formules. Selon la théorie économique, il y en a plusieurs, mais trois qui sont vraiment très connues, mais une qui est vraiment due, ou bien on donne le crédit toujours à John Maynard Keynes, c'est l'équation comptable quelque chose. Je peux dire que le produit intérieur brut est égal à la consommation des ménages, ou bien la consommation finale, plus l'exportation, moins les importations, plus les dépenses gouvernementales, etc., etc. Alors, il y a vraiment un débat fondamental entre croissance ne veut pas dire toujours un progrès. Alors, certains économistes disent même que la croissance telle qu'on la mesure aujourd'hui est devenue myope, même vers aveugle. Le PIB augmente, certes, mais à quel prix? Plus de pollution, plus d'inégalités, on a aussi plus de stress environnemental. C'est pour que cela qu'on parle de maintenant de la croissance durable, sustainable growth, ou même la croissance verte, ou même la théorie de décroissance. L'idée, c'est de décorréler la création de richesses de la destruction en fait de l'environnement. C'est produire plus, oui, mais on respecte vraiment les limites de la planète. Et d'autres vont encore plus loin, ils parlent de la post-croissance, comme je viens de dire, de la décroissance choisie, pas dans le sens d'un effondrement, mais dans celui d'un nouveau modèle de bien-être. Alors, tu vois maintenant, il y a vraiment un débat sur la croissance, c'est aussi un débat qui est philosophique. Et c'est vraiment une réflexion réelle sur notre manière de vivre. Est-ce que la croissance doit être infinie? Est-ce qu'elle peut l'être sur une planète finie? Alors vraiment, il y a quelque chose de paradoxal. Et aujourd'hui, le gouvernement, par exemple, les gouvernements, ils cherchent toujours à relancer cette économie à travers de plusieurs leviers. Par exemple, je peux citer, il y a les investissements publics, les innovations technologiques, les politiques monétaires. Mais ces politiques ont aussi leurs limites. Hein. Par exemple, la monnaie, hein, l'argent, le budget qu'on peut utiliser. Quand on stimule, par exemple, trop, on crée d'inflation. Quand on freine trop, on crée vraiment un chômage qui est significatif. C'est un équilibre vraiment fragile, presque un art. Hein. Et c'est là que la théorie rejoint en fait la pratique, la réalité. Car la croissance n'est pas qu'une équation simple. C'est une construction sociale avec un choix qui est collectif. Et on décide ensemble du type croissance qu'on veut. Alors, aujourd'hui, plusieurs économistes ils plaident pour une croissance plus qualitative. Ils disent: il ne suffit pas de produire plus de voitures, il faut produire de meilleures voitures. Il ne suffit pas de savoir plus de travailleurs, il faut avoir du travail de qualité. Et cette idée rejoint vraiment les débats sur la productivité, sur l'innovation responsable et sur la réparation équitable des richesses. Des richesses. Et alors, où on est aujourd'hui? On parle de la croissance verte, on parle de la croissance inclusive, de l'économie circulaire, des mots qui traduisent une volonté de repenser notre rapport entre richesse et à la nature. Mais la grande question reste vraiment ouverte. Peut-on vraiment concilier la croissance du bien-être, bien évidemment, du bien-être social, en respectant l'environnement? Peut-on continuer à faire grandir, en fait, l'économie sans faire reculer la planète? Est-ce qu'il faut vraiment sacrifier l'économie pour avoir un bon environnement? Ou bien est-ce qu'il faut vraiment sacrifier de l'environnement pour avoir une bonne économie, une croissance économique, une croissance moderne? Alors oui, la croissance s'en déchiffre, mais surtout, c'est une histoire qui est humaine. Celle de notre capacité à innover, à coopérer entre les ménages, entre les entreprises, entre le gouvernement, entre les différentes parties prenantes. Et peut-être qu'au fond, la vraie croissance n'est pas seulement celui de PIB. Il y a vraiment plusieurs indicateurs. Il y a des indicateurs de développement humain, il y a des indicateurs de bonheur, comme le bonheur intérieur brut, etc., etc. C'est celle de nos idées, de nos solidarités et de notre conscience collective. Alors c'était ça, en fait, notre premier bloc qui était sur la croissance. Et on enchaînera dans le deuxième bloc, la monnaie, son histoire, sa construction. Alors, on va partir à une courte une musique, courte pub. Et vous êtes toujours sur les ondes de CFA 88.3.